Philippe Nanzer.
Du football en ouverture de ce Flash Info, puisque en cette fin d'après-midi, Servette accueille Lugano pour le compte de la 16e journée de Super League. Un match entre prétendants au titre de champion de Suisse, même si depuis quelques semaines, il faut le dire, Servette traverse une passe un peu compliquée. Alors à tel point que les Genevois doivent réagir ce soir, Grégoire Ogier.
Exactement, un mois de novembre difficile pour Servette qui n'a engrangé que 2 points sur les 4 rencontres de championnat disputées. Et aujourd'hui, eh bien, Servette joue une carte importante puisqu'il affronte le 2e de Super League alors que Servette pointe 3 unités derrière cette équipe du FC Lugano. Une demi-heure que l'on joue dans cette partie et pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur cette pelouse du stade de Genève. C'est Servette qui domine outrageusement son adversaire. Les Genevois ont d'ailleurs déjà trouvé par 2 fois les montants début adverse, mais pour l'instant le score est toujours de 0-0. On joue une autre rencontre dans le même temps, c'est 2-0 pour Young Boys face à Saint-Gall. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Sion a gagné 3-1 sur la pelouse de Winterthur et on joue également en National League de hockey sur glace. Pour l'instant, le Lausanne Hockey Club mène 2-1 à Ambry.
Merci Grégoire. Un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, nous n'y sommes pas encore, mais nous y travaillons activement, a déclaré aujourd'hui Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il y aura d'autres discussions et d'autres consultations et nous espérons pouvoir conclure un cessez-le-feu avec un accord sur les otages, a ajouté ce conseiller du président américain Joe Biden sur la chaîne américaine NBC. C'était aujourd'hui. Gaza, où l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens annonce aujourd'hui qu'elle va suspendre la livraison d'aide humanitaire dans ce territoire depuis un point de passage clé de Kerem Shalom à la frontière avec Israël. L'UMRA explique cette suspension par le fait que l'acheminement de l'aide humanitaire par ce point de passage est devenu impossible, ce sont ses termes. Principale raison, l'insécurité qui règne sur le tronçon routier en amont de la frontière. Ski alpin, Camille Rast et Mélanie Meillard ont réussi leur première manche dans le slalom de Killington cet après-midi. Les skieuses romandes pointent respectivement au 3e et 4e rang d'une course dominée par l'Allemande Lena Dürr. La 2e manche est prévue à 19h. Elle sera à suivre sur RTS2. Quant à Michaela Schifrin, elle a fait forfait pour ce slalom qui a donné de ses nouvelles après sa lourde chute d'hier en géant. L'Américaine souffre d'une sévère blessure musculaire et d'une plaie profonde du côté droit de l'abdomen. La météo, eh bien, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, le ciel est soit totalement clair ou il reste encore quelques nuages résiduels, les brumes s'étant lentement dissipées tout au long de l'après-midi. Demain, le temps sera plus nuageux dans l'ensemble, avec quelques éclaircies dans les Alpes et les Préalpes, puis surtout dans le Haut-Valais. La pluie est attendue dès l'après-midi par le Jura d'abord et partout ailleurs en soirée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La maltraitance infantile n'est pas un jeu d'enfant. En Suisse et dans le monde, des milliers d'enfants sont confrontés à des situations de violence physique, psychologique ou à de la négligence. Pourtant, face à cette maltraitance, donner est un jeu d'enfant. La RTS et la chaîne du bonheur s'engagent du 14 au 20 décembre pour une enfance heureuse en Suisse et dans le monde avec leur programme Cœur à cœur. Faites un don sur cœur.rts.ch.
La belle échappée.
La belle échappée.
La belle échappée.
À Granda Fuja.
La belle échappée.
Güzel kaçış.
La belle échappée.
Çudes notu kotuvane.
La belle échappée.
À bonita escapada.
Mi belle échappée.
La belle échappée.
Christophe Canu.
Muriel Mera.
Mais Marolles, c'est vraiment un quartier de passage en fait. Toutes les vagues d'immigration successives sont passées par les Marolles.
Et quand on voit la place du jeu de balle aujourd'hui, il y a très peu de commerçants, de vendeurs, de brocanteurs, comme on dit, belgo-belges en fait aujourd'hui. C'est beaucoup des brocanteurs d'origine africaine, maghrébine ou étrangère.
Je pense que c'est ça qui donne cette valeur à la place du jeu de balle. Donc c'est cette diversité culturelle qu'on vient tous d'ailleurs des différents pays, des différentes tribus, des différentes cultures surtout.
Lui, c'est Anas. Originaire du Cameroun, il a travaillé plusieurs années comme vendeur sur le marché de la place du jeu de balle. Ce marché aux puces, c'est l'un des plus vieux de Belgique. L'année dernière, rendez-vous compte, il soufflait ses 150 bougies. Autre particularité de ce marché, ouvert 7 jours sur 7, c'est qu'il se niche au cœur du quartier des Marolles. Un quartier mythique, historique et populaire, situé à un jet de pierre de la gare du Midi, en plein cœur de Bruxelles. Ce quartier, ses luttes, ses résistances, notamment face au risque de gentrification, c'est l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui grâce au long métrage de Constant Léon. Mais avant ça, une autre histoire, un court métrage. L'histoire d'un reporter, Tristan Miquel, qui se demande quelles traces Frankenstein et son horrible créature ont laissé sur le territoire genevois. Car on le sait ou on ne le sait pas, mais c'est dans le canton de Genève, plus précisément dans la riche commune de Coligny, que Marie Shelley a imaginé puis donné vie à son célèbre roman. D'un côté, l'histoire des Marolles à Bruxelles, l'un des derniers quartiers populaires situés au cœur d'une grande métropole européenne. De l'autre, l'histoire de la naissance de Frankenstein à l'été 1816 dans la prospère commune genevoise de Coligny, où Marie Shelley séjournait avec son mari dans la villa de Lord Byron. Peuple et bourgeoisie, lutte sociale et littérature, on est comme ça, la belle échappée. On aime la diversité, qu'elle soit physique, géographique ou économique. Nathalie Schauenberg au choix des musiques, Antonin Barre à la technique, Muriel Mera au micro. Bonsoir à vous, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 18h.
Dans les jardins de la villa, je regarde le ciel. Les oiseaux ce matin chantaient ce querelle. Il y a tant de beauté. Toute l'histoire de l'Europe parle à mes pieds. J'entends les murs chanter. Coma, amor, ma dolce vita, exquis palindrome, j'ai fui dans tes bras. Oh, ma grande bellezza, ici l'amour se réinventera. Dans le soleil, l'automne ici a des saveurs d'agrumes. Et chaque jour dans mon journal intime, je note les détails de mes vacances romaines. Il est venu chanter sous ma fenêtre, à des faux airs de Grégory Peck. M'a invité à boire un spritz. Et j'ai cru l'entendre me dire. Profonde des fontaines, je vois s'animer les fantômes qui se poursuivent et qui se traînent. Un baiser sous le doigt de Neptune, baroque et romantique, fixé au sel d'argent dans un film mythique. Oh, my grande belle.
Roma Amor. C'est lors d'une résidence à la Villa Médicis de Rome que Barbara Carlotti a composé ce titre. Et vu la splendeur du lieu, rien d'étonnant si elle y a trouvé l'inspiration.
La Belle Échappée, le court-métrage.
L'histoire se déroule à Genève. C'est là que la terrible créature de Frankenstein est née. Plus précisément dans une coquette villa de la commune de Cologny, la Villa Diodati. Marie Shelley y a séjourné à l'été 1816. Et c'est lors de son séjour qu'elle a cauchemardé, puis couché sur papier l'un des monstres les plus emblématiques de notre imaginaire. Un monstre qui finira par errer dans les rues de la cité de Calvin, cherchant à se venger de son créateur. N'écoutant que son courage, notre reporter est parti sur les traces de la romancière et de sa créature, avec comme guide Daniel Vuillamy, membre de l'association des guides du patrimoine à Genève. Un voyage qui commence au parc Monnier, depuis lequel on aperçoit, sur l'autre rive du lac, la villa bourgeoise où tout a commencé. Voici, sur les traces de Frankenstein, le court-métrage de Tristan Michel, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Nous sommes sur le point de vous dévoiler l'histoire de Frankenstein. Un homme de science qui voulut créer un être humain à sa propre image, sans s'en remettre au pouvoir de Dieu.
Daniel Vuillamy, on a en face de nous, c'est quoi, Cologny, les coteaux de Cologny, cette brume sur le lac toute grise. Mais cette histoire n'a pas été écrite en hiver, l'histoire de Frankenstein, cette histoire terrifiante.
Non, en effet, elle a été écrite en été, mais un été qu'on peut dire hivernal, c'est-à-dire que c'était un été exceptionnel, un été vraiment pourri dans toute l'Europe à cette époque-là, en 1816. On a presque tous les jours de la pluie, il fait froid. D'ailleurs, quand Mary et ses amis vont passer le col de la Faucille pour venir, dans le Jura pour venir ici, ils vont essuyer une tempête de neige au mois de juin. Et ça va continuer. Tout l'été, il y aura très peu de jours sans pluie. Et puis, il y aura surtout des orages spectaculaires qui étonnaient tout le monde, même les gens du coin aussi. Et puis, le ciel était très sombre. C'était un été vraiment sombre. Et bon, ça, on ne le savait pas à l'époque, mais c'était dû à l'éruption d'un volcan en Indonésie, le volcan Tambora, qui l'année précédente, en 1815, avait eu une éruption. Il y a eu des milliers de morts sur place en Indonésie. Et cette éruption a complètement chamboulé le climat sur toute la planète. Il y avait un énorme nuage de cendres. Bon, à l'époque, on ne savait pas que c'était dû au volcan. C'est les savants qui l'ont découvert plus tard. Mais c'était inquiétant. C'était une atmosphère de fin du monde. On se demandait, est-ce que l'été allait revenir une fois ? C'était une atmosphère inquiétante. Et il y a eu d'ailleurs des famines. C'était la dernière famine en Suisse, parce que les récoltes pourrissaient sur place. Et ça a marqué toute l'Europe en 1816. Et d'ailleurs, ce temps, ce climat particulier est probablement à l'origine du roman, si je puis dire, puisque Mary et ses amis étaient venus ici principalement pour les Alpes, pour aller faire des excursions dans les Alpes, et évidemment avec ce temps-là.
Donc la noblesse anglaise voyageait à travers les Alpes, faisait des expéditions, et là ils se retrouvent finalement en face de nous dans cette villa de la commune de Cologny, commune très cossue, hein, j'imagine déjà à l'époque c'était la campagne, il y avait peut-être moins de construction que maintenant, et là une belle maison, la Villa Diodati, on se retrouve comme ça dans cet été très bizarre, très particulier, très gris. On se retrouve comme ça entre nobles anglais pour écrire des histoires.
Oui, oui. Alors cette fameuse Villa Diodati que nous avons juste en face de nous ici, qu'on distingue à peine aujourd'hui à cause du brouillard. Je vais vous montrer une photographie où on la voit bien mieux. Vous voyez, elle est juste en face, dans ce carré de verdure qu'on voit en face.
On n'a pas le droit de la visiter, on n'a pas le droit d'aller la voir, hein. elle est privée.
Non, non, non. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à voir, il faut le dire. La maison est en main privée et elle a été beaucoup transformée, pas à l'extérieur. L'extérieur reste celui qu'il était plus ou moins à l'époque de Byron.
Mais passons à cette fameuse soirée. Alors, à ces fameuses soirées,
Oui.
Qu'est-ce qui s'y passait, si vous arrivez à nous faire vivre ça?
Alors, évidemment, comme ils étaient tout près les uns des autres, souvent ils allaient les uns chez les autres, ils étaient invités pour prendre le petit déjeuner chez Mary. Le plus souvent, on montait chez Byron, puisqu'il y avait un grand salon avec un feu de cheminée, on pouvait tous se réunir là. Et un soir d'orage, Byron avait, enfin pas ce soir-là, mais il avait trouvé à Genève, dans une librairie, un recueil de contes allemands qui s'appelait Phantasmagoria, des contes allemands traduits en français, et il décide un soir de lire ensemble ce recueil de contes fantastiques. Hein, ce sont des ghost stories, comme disent les Anglais, qui en sont très friands.
Des histoires de fantômes.
Voilà, des histoires de fantômes. Et ils lisent comme on lisait à l'époque, c'est-à-dire ensemble, à haute voix, chacun lisait un passage. Bon, dans ce cas-là, c'était probablement chacun lisait un conte, hein, c'était plusieurs, un recueil de plusieurs contes. Et ils vont prendre beaucoup de plaisir à, bon, bien au chaud, bien à l'abri de tout.
Avec un feu de cheminée, comme ça, voilà. Blotti dans des plaides.
Oui, exactement, les Anglais adorent ça. Et à la fin, Byron propose quelque chose. Il dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, nous aussi, de faire mieux, d'imaginer chacun un conte. On va faire une sorte de concours à celui qui fera le conte le plus horrible, le plus qui donne le plus de frissons. Alors, ils sont tous enthousiastes. Ah oui, ça, c'est une bonne idée, bon, parce qu'ils n'ont, ils n'ont rien d'autre à faire que de rester à l'intérieur et d'écrire. Et ils repartent avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu un autre soir d'orage où, toujours dans la villa Diodati, dans le grand salon, se trouvaient ce soir-là Shelley et Byron, et puis Mary qui était là. Et Shelley et Byron, qui étaient passionnés par les découvertes scientifiques, parlaient justement de certaines découvertes concernant l'électricité. Il faut savoir que l'électricité, on la maîtrise bien aujourd'hui, mais à cette époque-là, au début du 19e siècle, on connaissait, on savait pas exactement ce que c'était que l'électricité, on ne connaissait pas toutes ses propriétés, et ça soulevait beaucoup de questions parmi les savants. Certains savants se demandaient même si l'électricité ne serait pas ce qu'ils appelaient le flux vital, c'est-à-dire ce qui fait que quelque chose est vivant. Et avec ça, les deux poètes vont fantasmer, ils vont dire « mais avec ça, on va pouvoir ressusciter les morts, on va pouvoir peut-être même créer un être vivant avec l'électricité ». Ça nous paraît un peu loufoque, mais à l'époque, c'était encore l'état des recherches était encore insuffisant pour comprendre ce que c'était que l'électricité. Et on a une grande inquiétude parmi les intellectuels de l'époque. Est-ce que la science est permise? Est-ce qu'on va peut-être pas aller trop loin? Et on se demande d'ailleurs toujours aujourd'hui, est-ce qu'on va pas trop loin? Où est-ce que ça va s'arrêter? Dans notre créature de Frankenstein aujourd'hui, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui fait peur. Un peu comme à l'époque, les découvertes faisaient peur. Ces nouvelles découvertes faisaient peur.
Attention. Cet orage va être magnifique. Tous les secrets électriques du paradis. Et cette fois, nous sommes prêts. Hein, Fritz? Prêts? Regardez, sa main bouge. Il est en vie. Il est en vie. Il est vivant, il bouge sa main. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Vivant. Il est vivant.
Henri, pour l'amour de Dieu.
Par la grâce de Dieu. Maintenant, moi aussi, je sais ce que ça fait d'être Dieu.
Elle est comment, cette créature?
Alors, elle n'est jamais décrite. Dans le roman, bon, on sait qu'elle a la peau plus ou moins jaunâtre, qu'elle a des yeux globuleux, mais elle n'est jamais vraiment décrite en détail. Et c'est très bien comme ça, parce que ça permet au lecteur d'imaginer tout ce qu'il peut imaginer.
Alors réveillez-vous, essayez de regarder les choses en face. Nous sommes en présence d'un démon dont le cerveau...
Dont le cerveau a seulement besoin d'un peu de temps pour se développer. C'est un parfaitement bon cerveau. Vous devriez le savoir, il vient de votre propre laboratoire.
Justement, le cerveau qu'on a volé dans mon laboratoire était celui d'un criminel. Vous avez créé un monstre et il vous détruira.
Daniel Vulliamy, on est parti du parc Moynier, on a traversé toute la rade, on est passé devant la vieille ville où on a vu la maison des Frankenstein, enfin on n'a pas vu la maison, mais on imagine qu'ils habitaient là, oui. Une famille fictive hein, qui n'a jamais existé, mais dans les romans ils habitaient en vieille ville, on est placé par la place Neuve, la place de Neuve, où Justine a été exécutée, on l'accusait du crime qu'avait commis la créature, et là on arrive sur la plaine de Plainpalais, et on la voit.
Oui, alors cette créature, enfin c'est une statue qui est récente, hein. Elle a été érigée il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas exactement. Pas pour rien d'ailleurs, parce que ce plein palais, qui n'était pas un quartier de Genève, mais qui était aussi de nouveau à la campagne, c'était une région de petits bosquets, c'était des lieux de promenade du dimanche pour les Genevois. Et c'est là qu'a eu lieu le premier meurtre de la créature, c'est-à-dire le meurtre du petit frère de Victor Frankenstein, du petit William.
Cette créature qu'on a en face de nous, on la dessine toujours pareil. Là, elle est un peu différente. On la voit cousue avec son torse effrayant, ses côtes. Elle est grande, hein. Elle a des bras, des mains cousues, des grandes mains, un visage tout déformé. Mais la morale de cette histoire, la morale de Marie Shelley, c'est pas forcément que le monstre est monstrueux et effrayant et méchant. Au contraire.
Le véritable héros du roman, à la fin, quand on a lu le roman en entier, c'est pas Frankenstein lui-même, mais c'est la créature qui est une sorte d'image de l'être humain par rapport à son créateur, à Dieu. Et la créature se révolte contre son créateur et lui demande « Pourquoi tu m'as créé dans un monde qui n'est pas fait pour moi ?» Comme l'être humain, à cette époque-là, demandait des comptes à Dieu. « Pourquoi nous avoir créé si pauvre, si faible, sans défense ?» par rapport aux autres animaux, sujet au froid, à la faim. Voilà, c'est cette interrogation qu'on trouve aussi au centre du roman.
Vous n'avez pas l'air de m'avoir bien compris. R. Frankenstein ne s'est intéressé qu'à une seule chose, la vie humaine. D'abord pour la détruire, et ensuite pour la recréer. Maintenant, vous connaissez son projet démoniaque.
C'était « Sur les traces de Frankenstein », le court-métrage de Tristan Michel, réalisé par Rodolphe Beauchaud. Et alors, si vous aussi, vous avez envie de partir sur les traces de Frankenstein, c'est possible. Vous pouvez contacter Daniel Vuillamy via le site de l'Association des guides du patrimoine de Genève. C'est un tour qu'il fait très souvent bénévolement.
En un instant, un mort-vivant. Rassembler, coudre ensemble les morceaux, le nez, les yeux, les lèvres et la peau, les connexions nerveuses fixées au cou par des écrous. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant. Mais il fallait aussi un assistant qui, ayant brisé le cœur par accident, lui substituait celui d'un assassin, assassin. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Après quelques décharges électriques, il se mit à rouler des mécaniques. Renversant bec bazaine et cornu, il disparut. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Je serai avec toi le jour de tes noces, avait promis au docteur le colosse. Et lorsque la fiancée arriva, il étrangla.
C'est en 1972 que Serge Gainsbourg a écrit et composé cette chanson pour France Gall. Alors, ce n'est pas le roman de Mary Shelley qui l'a inspiré, mais La fiancée de Frankenstein, film américain, sorti en 1935. Date à laquelle, à mon avis, il y avait beaucoup moins de soucis sur les routes.
Infotrafic RTS.
Sur la 9, Martigny-Lausanne, les automobilistes qui rentrent du Valais subissent des retards estimés à une demi-heure entre Aigle et Vevey. Et puis sur la 1, Lausanne-Genève, le temps de parcours entre Écublens et Saint-Pré est prolongé d'une dizaine de minutes en direction de Genève.
La belle échappée, le long métrage.
L'histoire se passe au Marolles, un quartier mythique de Bruxelles. Un quartier qui, dit-on, a toujours accueilli les habitants et les habitantes les plus défavorisés de la capitale, mais aussi les plus épris de liberté, les plus frondeurs, les plus contestataires. Et c'est vrai que les Maroliens et les Maroliennes s'y entendent pour faire barrage au projet qui risque de dénaturer l'âme de leur quartier. En 1969, les Marolles sont menacées de destruction. Il s'agit de raser le quartier pour y installer une extension du palais de justice. La résistance s'organise, les murs se couvrent d'affiches, les manifestations se succèdent, une lutte est engagée contre les différents ministères, et victoire, la bataille est gagnée, on ne démolira pas les Marolles. En 1989, c'est l'opération Matelas qui voit le jour. Pour dénoncer des expulsions sans plan de relogement décent dans le quartier, Maroliens et Maroliennes installent fauteuils et matelas dans la rue et y dorment pendant plusieurs semaines, affirmant par là qu'on ne les délogera pas. La victoire est en demi-teinte. Certaines personnes sont relogées, d'autres quittent le quartier. Plus récemment, au milieu des années 2010, c'est contre un projet d'un parking souterrain que les Marolles se mobilisent. Le parking doit être bâti sous la place du jeu de balle. Place mythique qui accueille 365 jours par an, l'un des plus anciens marchés aux puces de Belgique. Le tollé est tel, assorti d'une pétition munie de 23 000 signatures, que le projet est abandonné. Ces luttes, ces résistances, ont inspiré Hakim Loukman et Otman Moumen, deux comédiens, auteurs d'un spectacle sur le quartier des Marolles. Voici Les Marolles, quartier historique de Bruxelles en lutte pour rester populaire. C'est le long métrage de Constant Léon, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
On essaye ça ?
Ouais, d'accord, ça marche.
Allez. C'est marrant quand même. Depuis le début, ce quartier, on essaye de le mater, de le transformer, de l'effacer même parfois. Et pourtant, il tient toujours. C'est un quartier qui lâche pas l'affaire. C'est sans doute de là que ça vient, que tout a commencé.
Qu'est-ce qui a commencé ?
Ben, tout ça, la contestation, ce souffle, ce parfum de révolte, le truc qui demande qu'à s'embraser, c'est dans l'air, c'est dans les murs, dans les pavés. Depuis le Moyen-Âge, ça se bat, ça s'indigne, ça se révolte à coups d'émeute, maté dans le sang.
Zone de non-droit, de perdition, où règne la misère qui attirera de nombreuses congrégations religieuses et autres bonnes sœurs en tout genre.
Les Brigitines, les Capucines, ces dernières dont la devise est Mariam Colantes, eh ben, elles sont surnommées les sœurs Maricole. Maricole, Marolle.
Maricole, Marolle, tu vois.
Puis il y a aussi les minimes. Alors eux, ils manquaient pas d'humour. Ils avaient construit leur couvent sur un bordel à ciel ouvert. Et sur le fronton de l'édifice, ils avaient écrit « Sigi, la maison de Vénus, qui maintenant est la demeure de la Vierge ». Amen.
Mais ça ne suffit pas à arrêter la prostitution. Alors on a fermé ces ruelles avec des guichets pour tenter d'endiguer ce commerce. Mais rien n'y fit. Pas même la construction d'un mur qui entourait le quartier, le transformant en véritable ghetto. Mais comment dompter une population qui a jamais cessé d'ouvrir ?
Donc ici nous sommes au Théâtre des Tanneurs, qui est un théâtre vraiment niché en plein milieu du quartier des Marolles. Et qui est un lieu, je pense, est chargé d'histoire aussi.
Donc on s'est mis en tête de faire ce spectacle sur les Marolles en allant vraiment rechercher mais par quoi tout ce quartier était passé, quoi. Est-ce que ça pouvait laisser comme empreinte, comme trace dans les murs ?
Je suis Otman Moumen, je suis comédien, artiste depuis une bonne vingtaine d'années à Bruxelles.
Moi je m'appelle Hakim, je suis comédien et animateur socioculturel dans une maison de quartier à Watermael-Boitsfort. Et on est en train de réaliser ce projet de spectacle avec Otman.
Et voilà, là aujourd'hui on est en pleine répétition, en brainstorming, on écrit un peu, on cherche, on enlève, on se pose beaucoup de questions, voilà, on teste beaucoup de choses, c'est un peu ça
l'exercice de la création, là, surtout sur un sujet aussi vaste que les Marolles, c'est de se décider sur qu'est-ce qu'on va, de quoi on va parler.
On a pris conscience dans les recherches qu'on avait faites que les Marolles avaient vu transiter des gens d'origine très diverse. C'est vraiment un quartier de passage, en fait. Toutes les vagues d'immigration successives sont passées par les Marolles.
Et quand on voit la place du Jeu de Balle aujourd'hui, il y a très peu de commerçants, de vendeurs, de brocanteurs, comme on dit, belgo-belges, en fait, aujourd'hui. C'est beaucoup des brocanteurs d'origine africaine, maghrébine ou étrangère. Et là, on le voit vraiment sur la place du Jeu de Balle, quand on voit tous les commerçants.
Tu en as des ceintures? Tu en as des ceintures? Combien? Tu n'as pas?
Aujourd'hui, je suis au Jeu de Balle un peu plus tard que d'habitude parce que je n'ai pas travaillé. Je cherche des ceintures pour maintenir la colonne vertébrale. Mais ça, c'est plus pour envoyer en Afrique. Un peu comme les faire repasser des frigos. Parce qu'à l'intérieur du frigo, je sais utiliser cet espace vide qui est à l'intérieur du frigo et charger plein de choses à l'intérieur pour envoyer en Afrique.
Et j'ai vu tout à l'heure, toi qui es plutôt souriant. D'habitude, quand tu négociais la ceinture, ça rigolait pas.
Non, ça ne rigole pas parce qu'il faut, être un peu dur en négociation. Mais à la fois, être toujours souriant. Tu vois, le marchand doit toujours se dire, en plus de lui vendre quelque chose, je l'aide un peu. Parce qu'il a besoin de ce truc, je vais lui faire un bon prix.
On traverse les allées de la brocante.
Ouais.
On a fêté récemment les 150 ans de la place du
ouais,
Jeu de Balle.
Je me souviens très bien.
Et alors, je voyais beaucoup d'articles de médias belges qui disaient ce sont plus des vieux marchands belges, des antiquaires, ce sont plutôt des personnes récemment arrivées ou alors des personnes racisées précaires.
La place du Jeu de Balle, disons vrai, est l'unique marché dans toute l'Europe qui se tient de lundi à dimanche, sans jour exception, même les jours fériés. S'il n'y avait pas ces étrangers pour maintenir cette cadence, cette historique, ce lieu symbolique, pour moi, tous ces gens qui sont des commerçants ou bien qui sont des acheteurs et tout, représentent énormément pour moi. C'est ceux qui maintiennent ce marché en vie, en fait. Ouais. La seule fois où j'ai vu ce marché s'arrêter, c'est quand il y a eu des petites crises. Ouais. Et avec l'arrivée du Covid.
Depuis toujours, ça bouillonne ici, c'est dans l'ADN du quartier. C'est dans l'air et dans les pierres, dans la mémoire des pavés.
La mémoire des pavés?
Sens-moi ce pavé, tu sens?
Pas trop, non.
Mais respire, mon sang, tu sens ça? Ça a couru sur ce pavé, ça s'est battu, c'est même tombé sur ce pavé. Et ça s'est toujours relevé. Non, mais sens-moi ça. Allez, ça sent la poudre, un parfum de révolution belge. Les Marolles, ils sont de tous les combats. En 1830, alors que la Belgique s'apprête à naître et que les Bruxellois s'opposent aux Hollandais, les Maroliens sont les premiers sur les barricades. Mais si, une fragrance de Première Guerre mondiale. En 1418, quand Bruxelles est occupée, les Allemands garderont en permanence un canon pointé sur le quartier. Il y a de l'Espagne là-dedans, des semelles de républicains espagnols qui fuient le franquisme. En 40-45, quand la rue du Radis, qui n'existe plus aujourd'hui, était le centre du marché noir, les habitants des Marolles étaient nombreux à cacher des juifs pour pas qu'ils se fassent prendre par les Allemands.
Ouais, ouais, je crois que je sens, ouais.
Ouais, tu vois, des juifs qui fuient les pogroms à l'est, des Espagnols, des Marocains, des Polonais, des Italiens, des Roumains, à la recherche d'une vie meilleure et qui débarquent à la gare du Midi et se retrouvent ici. Première porte d'entrée d'un nouveau monde.
Je suis sûr qu'en arrivant, ils étaient même pas dépaysés.
Parce que c'est ça aussi les Marolles, une terre d'accueil pour toute la misère du monde. Une terre de transit pour tous les damnés de la terre qui ont chacun laissé leur empreinte sur ses pavés, dans ses murs. Ils ont marqué le territoire.
Territoire.
hein, un territoire, on y revient, hein, cet espace délimité occupé par un individu ou un groupe d'individus et régi par ses propres lois, doté d'une identité propre, espace qui s'organise autour du commerce de tout et parfois de n'importe quoi.
Oui, de brôle, quoi.
L'identité des Marolles, elle est multiple comme ses habitants, changeante comme les vagues d'immigration qui ont déversé, chacune à leur tour, ces hommes et ces femmes chargés d'histoire, charriant avec eux leur joie et leur tragédie, leur tristesse et leur fol espoir.
Comme les couches de peinture sur un mur qu'on repeint sans cesse. Et les couches d'immigration ont laissé leur empreinte et ça s'accumule comme un millefeuille. Petit à petit, cet esprit y reste et il se renforce même. Un mélange de solidarité et de fronde, un quartier grande gueule à la marge.
C'est comme ça qu'on dit à Hakim, à la marge.
Exactement, à la marge. À la marge de la cité d'abord, des murs de la ville. Pas dedans, juste à côté.
Je m'appelle... De mon nom de famille, Ali Mbombo. Mais de mon nom d'artiste Anas. Parce que je suis artiste de père en fils de l'artisanat. Ça veut dire de fondeur de bronze, de tisserand et de sculpteur sur du bois. Mon métier, c'était mon métier en Fumban. Ça se situe à l'ouest du Cameroun. À un moment, je suis arrivé en Belgique, quoi. Donc c'était une nouvelle vie. Je ne pouvais plus travailler dans l'artisanat. Je ne pouvais plus tisser. Je ne pouvais plus sculpter et tout et tout. Mais il fallait voyager pour pouvoir avancer, en fait. Je venais de finir mon séjour d'hôtel, c'était de 2 jours, et j'ai croisé un Camerounais qui m'a dit, écoute, je vais te montrer un endroit, tu es plutôt brillant et je pense que tu t'en sortirais là. Il s'est arrêté et il m'a dit d'avancer tout droit, que je verrais un marché. Et il était sûr que j'allais m'y plaire. Et le jeu de balle a été comme un berceau, quoi. J'avais 24 ans, tu vois. J'étais en situation irrégulière et avoir un endroit pareil, ça signifiait au moins ce que tu pouvais... T'es débrouillé un tout petit peu, ouais.
T'as travaillé là comme marchand?
Au début, j'ai aidé juste les marchands et j'ai resté aussi sur place. Ça veut dire que j'ai déchargé très tôt le matin. En ce temps, on déchargeait à 5 heures. Il faisait très froid et tout et tout. Et il fallait revenir à 2 heures ou recharger une camionnette ou plusieurs. Tu proposes ton aide de temps en temps parce que personne ne peut décharger et recharger un camion toute seule. Surtout les marchands qui existent, même jusqu'à aujourd'hui, c'est carrément impossible.
Parce qu'ils vont dans les greniers pour récupérer la marchandise et ensuite il faut revenir et c'est tous les jours, quoi. Donc c'est pas tout
ça. C'est un peu le cycle de la vie. Ils vont vider les maisons de ces gens qui veulent se débarrasser de leurs objets, de ces gens qui sont peut-être décédés ou qui ont juste changé de vie. Ça revient au jeu de balle. Il y a des chineurs qui vont chiner des choses, qui vont ramener chez eux, qui vont resservir ensuite. Des gens qui vont peut-être l'acheter pour envoyer dans d'autres pays. Mais des objets peuvent revenir encore au jeu de balle quelques années plus tard. Après, on a réussi à se faire régulariser, à avoir un compte marchand où on pouvait travailler légalement et tout et tout. Et après, quelques années plus tard, j'avais pu commencer à racheter des trucs qui pouvaient servir, soit pour ma famille, soit pour des gens... que je connais, des rallonges, des fer repasser. Mais mon stand s'est situé de l'autre côté de la brocante.
Je sais que tu as vendu des masques que tu as importés du Cameroun ici à la brocante.
C'était des masques qui représentaient des cérémonies de danse, des cérémonies de rituels de naissance de jumeaux. Parce qu'à la base, c'est l'Européen qui a donné une valeur marchande aux objets africains. L'Africain n'a pas commencé à sculpter pour les vendre. C'était une façon pour l'Africain de s'exprimer à travers ses arts, d'exprimer ses émotions, ses joies et ses peines, ses détresses. Comment tu voulais faire sortir tes émotions à travers les œuvres.
Au capitaine Haddock sur le lac de Genève qui croit entendre des moustiques et en fait c'est un hélicoptère. Je crois que c'est dans l'affaire Tournesol.
Ah oui, mais là pour le coup je crois pas que ce soit un moustique.
Là c'est un très gros frelon, hein.
On a un hélicoptère, je pense, qui nous survole. Tout à l'heure, c'était la voiture
de... L'hélicoptère de la gendarmerie.
Tu l'as piloté? Ah, mais non, c'est la gendarmerie.
Non, la police fédérale.
Mais... Et qui survole le quartier, bon.
C'est qu'il doit y avoir une manif quelque part. Voilà. Au revoir, l'hélicoptère. Blanop. Oui, bon, donc... On se trouve ici dans la cour intérieure de l'Union des locataires marolliennes. C'est en fait une association non gouvernementale d'aide aux locataires et de défense des locataires et des droits des plus démunis. Et c'est ici qu'on se réunit, parce que c'est bien facile... pour les réunions du comité de rédaction du petit journal qu'on édite, Pavé dans les Marolles.
Cette union des locataires maroliens se situe rue des Renards, donc c'est la petite rue qui remonte de la place du jeu de balle vers la rue Haute, la Marolle originelle, on va dire.
Oui, oui, exact. Et donc moi, je m'appelle Patrick Wouters, j'ai 77 ans... de formation, je suis industrial designer, mais la vie a fait que je suis devenu commissaire de police à la ville de Bruxelles. Je suis un militant des luttes urbaines, je suis coprésident de Inter-Environnement Bruxelles, qui est une fédération de comités de quartier.
Comment tu raconterais ce quartier à des gens qui ne le connaissent pas ?
Historiquement, c'est un quartier populaire. Depuis très, très longtemps. Il se situe à côté de l'hôpital Saint-Pierre, qui est un gros hôpital universitaire, mais qui a commencé sa carrière, si je peux dire, comme un hospice de lépreux. Et pas mal de couvents, comme partout ailleurs dans Bruxelles. Après la Révolution française, ces couvents sont vendus. La bourgeoisie de l'époque, vers 1840-1850, veut assainir certaines parties de la ville. Et donc, les chemins de la ville de Bruxelles tracent une rue qui s'appelle ou qui s'appellera la rue Blas, dont le trajet est calculé pour passer par un certain nombre d'impasses, puisque le peuple résidait dans des impasses. C'est une manière de contrôler les classes populaires qui sont les classes dangereuses. Et donc, pour éradiquer une partie de ces impasses, la rue Blas est construite, qui frôle ce qui deviendra la place des jeux de balle, le marché aux vieilleries et objets usagés qui se trouvait antérieurement dans le centre de Bruxelles, sera déplacé à la place du jeu de balle actuel, qui existe donc depuis 174 ans. Et donc, oui, on peut revaloriser l'espace public. Tout le problème, c'est pour qui ? L'existence de ce marché quotidien permet aux pauvres de survivre un peu moins difficilement ici qu'ailleurs. On peut monter son ménage en achetant une dizaine d'assiettes, des tasses, des couverts, une paire de chaussures à 10 euros. Bon, voilà.
Où est toi qui baisses les bras comme ça. Mais moi, oh, j'ai décidé de faire des chansons pour toi.
Ça va pas la tête, signé de l'artiste belge né en République démocratique du Congo, Temetan. En bon bruxellois, il doit sûrement connaître, voire fréquenter, le quartier des Marolles. Ce quartier populaire, bigarré, solidaire, engagé et contestataire, dans lequel nous rejoignons Constant Clément. Il est en compagnie de Hakim Loukman et Otman Moumen, ces deux comédiens auteurs d'un spectacle sur les Marolles.
Alors on s'en va, place du jeu de balle, mais de l'autre côté. Donc là on part du théâtre des Tanneurs pour aller vers la place du jeu de balle, le marché, parce que potentiellement il y a l'idée de jeter un œil sur les accessoires pour la pièce, c'est ça?
C'est ça, on aimerait... En fait on aimerait chiner des petites choses qui pourraient nous servir d'appui de jeu dans le spectacle... On ne sait pas encore trop vers quoi on irait.
Il y a une voiture qui passe. Donc là, on remonte la rue des Tanneurs, d'où le théâtre des Tanneurs.
Il y a le palais de justice qui écrase les Marolles, juste au détour des rues.
La justice écrase les Marolles.
Ouais.
Ouais. Et alors, les Tanneurs, pourquoi la rue des Tanneurs? Parce qu'en fait, tous les tisserands... Et les tanneurs, ça, c'est une des spécialités de Bruxelles, ça a été le tissage. Les tisserands et les tanneurs ont été virés du centre, en fait, au XIIIe siècle, parce que le travail de tannerie, ça puait. Et donc, ils ont été repoussés vers la périphérie, directe, donc ici, où il y avait encore... les tanneurs, ils avaient besoin d'eau pour laver les laines. Et donc, il y avait la Seine qui passait encore ici avant, en surface. Maintenant, elle est enfouie dans la plupart. La Seine qui traversait Bruxelles, elle est enfouie maintenant. Parce qu'elle a amené beaucoup de maladies et tout ça. Et donc ici, dans cette rue, il y avait tous les tanneurs qui nettoyaient leur laine, qui utilisaient beaucoup d'urine aussi, puisqu'il fallait de l'ammoniac pour nettoyer, et de l'urine d'enfant. Parce qu'il est plus chargé en ammoniac, c'est ce que j'ai appris. Et donc ça puait, quoi. Il faut se dire qu'ici, c'était un quartier qui puait.
Londres à la Tamise, Paris, la Seine, Vienne, le Danube et Bruxelles alors, me direz-vous. Eh bien, la capitale belge a aussi sa Seine. De grandes latrines, comme l'a décrivé Baudelaire, à futur corridor vert, cette rivière est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions.
Voilà, là donc on va reprendre à gauche.
La rue du Chevreuil.
La rue du Chevreuil qui donne sur les bains de Bruxelles aussi, où moi j'allais à la piscine quand j'étais à l'école en secondaire. C'est une magnifique piscine, je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Je ne sais pas quel style, on pourrait dire, peut-être pas art déco, mais pas loin, je crois que c'est une piscine qui date des années 20.
Oui, il y a des bains publics et puis il y a aussi deux bassins sur deux étages différents avec des cabines individuelles. C'est vraiment aussi un lieu important dans le quartier parce que c'est aussi ce qui permet d'accéder à l'eau potable pour se laver et pour faire du sport. Enfin,
ouais, ça a été un lieu où les gens se rencontraient aussi dans le quartier, comme beaucoup de bains publics, quoi.
Et on voit la cité Lemons, du coup, qui est à l'angle de la place.
À l'angle d'une des places, tu as cette cité que moi, j'ai toujours trouvé belle. J'avais même fait un reportage photo sur cette,
cette cité, parce qu'on a l'impression de se retrouver le fin fond de Manchester ou à Londres, à l'époque victorienne. On a l'impression qu'on va croiser Jack l'Éventreur au coin de la rue. Et à côté, tu vois, t'as les anciennes casernes de pompiers. Ouais. Ah. On commence à entendre l'accordéon.
Ouais. Ouais, l'accordéon, c'est tous les jours, c'est pas seulement pour les touristes, quoi.
Ouais.
Mais c'est pendant le marché.
Ouais. Ils savent quand même que c'est. Voilà.
Aujourd'hui aussi, j'ai acheté un carton d'imprimante, d'encre d'imprimante, parce que ça coûte assez cher. Donc, ça, c'est plutôt risqué parce que je ne sais pas si ça va aller avec mon imprimante à moi. Mais je vais quand même essayer de la recharger. Le carton entier, je l'ai pris pour 20 balles. Et je compte juste utiliser le noir. En fait, c'est une kit matérielle pour pouvoir recharger soi-même l'encre. Ouais.
Et quand tu viens travailler, alors tu viens beaucoup plus tôt pour le coup, j'imagine.
Avant, il y a quelques années, on était là à 5 heures du matin déjà. Parce qu'on déballait très très tôt. On déballait très très tôt à 5 heures du matin. Mais après, la loi a changé, je ne sais pas pour quelle raison. Le déballage commence maintenant à 7 heures. À 7 heures du matin, jusqu'à 3 heures max de l'après-midi.
Et tu regrettes de ne plus habiter dans le quartier des Marolles ou à côté de la place?
Ouais, c'était très triste parce que au jeu de balle, c'est la vie tous les jours, quoi. C'est la vie tous les jours, c'est le calme dans la nuit et la vie reprend son cours. La vie reprenait son cours à 5h du matin. Ouais, ça me manque cette belle vue au jeu de balle, le bruit où les gens fouillent dans le carton très tôt le matin qui te réveille. Tu n'avais pas vraiment besoin du réveil pour te réveiller. Ça veut dire que tu sentais les gens fouiller, tu sentais les gens qui fouillaient dans les caisses et tout et tout. Et ça, c'était mon réveil à moi pendant 4 années consécutives. Et tu pouvais remonter de temps en temps à la maison et surveiller un stand de loin et de descendre s'il y avait un client. Là, il y avait une facilité à vivre là.
J'ai beaucoup entendu les personnes qui me parlaient du quartier et qui me disaient que ça avait beaucoup changé, qu'il y avait de plus en plus de boutiques qui coûtent cher pour des gens qui n'ont pas le même pouvoir d'achat, quoi.
Pour moi, c'est le monde elle-même qui a changé. C'est l'économie du monde qui a bougé, qui a évolué ou qui a diminué. Pour moi, ce n'est pas la place du jeu de balle qui a changé. J'ai eu des clients et j'ai eu à parler aux gens qui venaient et qui savaient exactement à qui ils voulaient acheter. Pas justement parce qu'il avait obligatoirement besoin de ce truc chez lui, mais qu'il avait besoin d'échanger, de partager ou d'apprendre de son vendeur. Tu vois, mais c'est le monde elle-même qui a changé. Pour moi, c'est pas le Marolles qui a changé.
Mais est-ce que tu trouves que le quartier a changé, qu'il y a plus de... Enfin, qu'on les petits bars disparaissent ou qu'il y a d'autres choses, des boutiques plus chères qui apparaissent?
Est-ce que les petits bars, ça disparaît? Je crois pas. Les cafés, ça ne disparaît pas. Les cafés, ça change juste d'image, ça change de nom, ça change de gérant. Mais je pense que ça maintient son jus, ça maintient son charme. Parce que peu importe à quel goût de café, à quel goût de personnage tu veux avoir affaire quand tu veux te faire servir un café, tu finis toujours par trouver ton compte.
C'est lequel ton préféré, toi?
J'ai toujours adoré le Shaft parce qu'il y avait une salle un peu plus haut où tu pouvais toujours être au calme et le temps de lire un livre et à la fois de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre et de savourer à la fois le jeu de balle et du café.
Alors, on ne sait pas trop, toi, quand tu arrives sur la place du jeu de balle, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, tu ne sais même pas ce que tu cherches. Mais, voilà, tu laisses ton regard se balader à travers tous les objets improbables.
Je
Allez, à tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on s'est dit, Hakim, qu'on voulait comme...
Je sais pas.
Si, moi, j'ai...
Un ventilateur.
Toi, tu voulais un ventilateur. Et moi, je voulais un autre truc, là. Ah oui, une carte, une vieille carte. Après, pour trouver une vieille carte, tu dis... Des tapis, j'aimerais bien des tapis aussi.
Bah là, il y en a trois sur les pavés, je les vois, qui sont étalés.
Tu n'es pas obligé, tu peux attendre la fin du marché. En général, les gens donnent les choses. Donc il y a des gens qui attendent la fin du marché pour pouvoir...
Oui, c'est aussi l'aspect entraide. Bon, c'est...
Oui, c'est ça. C'est, il fait beau aujourd'hui en plus. Mais là, tu vois, ils sont en train de... Il y en a certains qui sont déjà en train de plier bagages. Tu vois ? Ah ouais, les gens rentrent carrément en voiture sur la... Toi, t'as toutes les camionnettes sur les côtés qui commencent à charger.
Oui, et là, je regarde l'heure à l'horloge de l'église sur la place, ouais. Et qu'on va entendre dans 5 minutes. Ouais. Il est presque 1h.
On est quel jour ? On est jeudi, c'est pas encore...
Vendredi, ouais.
On est vendredi, c'est pas encore le... Les gros jours, c'est évidemment le dimanche et puis le week-end, quoi. Et tu vois, ici, il y a eu, encore dernièrement, il y a eu un grand squat qui a été évacué, qui est resté pendant, je crois, 1 an ou 2. Et ils se sont battus pour essayer de le maintenir là, et puis, bon, voilà, ils ont quand même été évacués, mais cette histoire de combat social continue, on dirait. Ça n'arrête pas.
On ne pourra pas la mettre dans le spectacle, mais il y a là une veste en simili. Ouais. Serpent jaune qui est du plus bel effet et qui est sans doute un peu trop petite et pour toi et pour moi, ce qui est dommage, mais en même temps ça nous évitera de nous disputer pour savoir qui va la porter. Mais elle est vraiment belle.
Moi je regarde pour du vrai. Toi tu parles, mais moi je regarde.
C'est une richesse culturelle. Je l'ai vécu dans le Maroc, je l'ai vu à Bruxelles. Je pense que c'est ça qui donne cette valeur à la place du jeu de balle. Donc c'est ça qui donne la valeur, c'est cette diversité culturelle qu'on vient tous d'ailleurs des différents pays, des différentes tribus, des différentes cultures surtout. Parce qu'en fait, la culture est tellement large qu'on a des différents modes de vie. Et moi, ça fait quelques années que je suis là. Mais la culture, c'est quelque chose d'énorme. Ça prend pas du... Je ne maîtrise pas encore la culture européenne. Quelque chose que je suis en train d'apprendre pour être plus riche, en fait. Parce que ma culture, moi, je l'ai déjà dans mon sang. Mais d'où mon voyage. Ce qui m'a permis de quitter l'Afrique, c'était la quête de ce savoir. Tu vois, c'était pas purement économique, mais c'était plutôt la quête du savoir. Et de découvrir la façon de vivre des gens.
C'était Les Marolles, quartier historique de Bruxelles en lutte pour rester populaire. Le long métrage de Constant Léon dans une réalisation de Rodolphe Beauchaud.
Infotrafic RTS.
Sur la 9 Martigny-Lausanne, des retards estimés à une demi-heure restent d'actualité entre Aigle et Vevey en direction de Lausanne. Et puis il est recommandé de rester sur l'autoroute et de ne pas emprunter la route cantonale le long du lac en raison du marché de Noël de Montreux.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
La Belle Échappée, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver samedi à 16h en nouvelle diffusion ou alors dimanche à 17h en direct et puis bien sûr quand vous le voulez sur les plateformes Play RTS par exemple. Vous écoutez La Première, il est 18h.
RTS La Première vous offre l'heure.
Je la redonne, il est 18h. Belle soirée, voici Forum.